Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Chers auditeurs, auditrices, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Soyez les bienvenus à l'émission Curiosité du vendredi, le décryptage des informations de notre région. Julia à la réalisation, accompagnée de Prisca, représentée par moi-même au micro de ce soir. Vous allez bien l'équipe ?
Ça va et toi ?
Super bien. Auditeurs, auditrices, nous recevons ce soir l'association Extinction Rebellion qui organise ce soir même de 22h à 23h30 une action pour éteindre les enseignes lumineuses. Vous l'aurez compris, nous parlons de sobriété énergétique ce soir avec Juliette, membre de cette association. Tu vas bien Juliette ?
Ça va bien, merci.
On écoute dans un instant cet échange au micro de Loïva. Loïva, ça va ?
Ça va.
Au sommaire également, à l'occasion de la 7e édition nantaise des 48 heures de l'agriculture urbaine, les écolonautes sont allés à la rencontre de l'association Nantes Ville Comestible pour échanger sur l'événement, les activités de l'association et sur les enjeux de l'agriculture de la métropole nantaise. Nous écoutons le reportage au cours de l'émission. Auditeurs, auditrices, nos chroniqueurs et chroniqueuses sont toujours au rendez-vous, rien que pour vous satisfaire à travers leurs différentes interventions. Pour ce soir, notre stagiaire Emmanuel nous entretient sur un dérivé du cannabis qui fait débat en ce moment. Tu vas bien Emmanuel ?
Ça va super.
Ensuite, Clémence revient sur les tenues qui ont marqué le Met Gala 2023 qui s'est tenu le 1er mai dernier à New York. Tu vas bien Clémence ?
Super et toi ?
Super bien aussi. Auditeurs, auditrices, la chronique littéraire d'Alexis est de retour. Et oui, Alexis nous présente ce soir deux livres dont Âge tendre, un roman de Clémentine Beauvais édité en poche par J'ai lu, et l'œuvre intitulée « Dessiner des petits Mickey, une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique entre 1945 et 1968 » de Jessica Cohn, édité par les éditions de la Sorbonne. Auditeurs, auditrices, sans plus tarder en présence de Loïva, partons à la découverte de notre invitée du jour, Juliette, membre de l'association Extinction Rebellion avec qui nous échangeons notamment sur le thème de l'énergie.
Curiosité. Pensez le futur.
Et bonsoir chères auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons en direct de Curiosité pour notre interview thématique du vendredi soir « Penser le futur, préparer l'avenir ». Et aujourd'hui, nous parlons énergie. Nous le savons, l'hiver 2022-2023 a été marqué par les discours politiques sur la sobriété énergétique, l'importance pour chaque citoyen et chaque ménage de réduire sa consommation d'énergie pour faire face aux risques annoncés de coupures de courant. Cependant, alors que ces discours sur les petits gestes ont plutôt tendance à mettre la responsabilité sur les individus, on observe toujours en ville des enseignes, des vitrines entières qui continuent de consommer à outrance en restant allumées toute la nuit. Pourquoi et comment lutter contre ? Eh bien, nous allons aborder ces questions à l'occasion d'un événement organisé par les collectifs Extinction Rebellion Nantes et Youth for Climate Nantes intitulé « Éteignons la lumière et rallumons les étoiles » qui aura lieu ce soir même à 22h. Avec nous en studio, nous recevons Juliette, membre d'Extinction Rebellion Nantes, ou XR Nantes pour les intimes. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour une petite introduction à notre entretien et pour les gens peut-être qui ne vous connaissent pas très bien, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que Extinction Rebellion ?
Oui, bien sûr. Alors, Extinction Rebellion, c'est un mouvement de désobéissance civile. On est organisé de manière horizontale. Et l'objectif d'Extinction Rebellion, c'est d'alerter sur l'urgence climatique et l'extinction du vivant qui est en cours actuellement.
Donc, c'est la rébellion face à l'extinction.
Exactement.
Donc, vous organisez ce soir l'action intitulée « Éteignons les lumières, allumons les étoiles ». Concrètement, comment ce type d'action s'organise? Est-ce que vous visez un secteur de la ville en particulier, des enseignes en particulier? Comment et par quels moyens vous éteignez les enseignes lumineuses?
Oui, alors l'action de ce soir, je voulais le préciser, elle est aussi organisée avec RAP, qui est Résistance à l'agression publicitaire. Donc c'est une co-organisation de ces trois mouvements. Et donc c'est notre troisième phase, c'est la troisième fois qu'on mène cette action ce soir. L'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser les commerçants et les entreprises qui n'ont pas fait le choix d'éteindre leur lumière. Et je voulais préciser avant toute chose que la plupart d'entre eux le font. En fait, on vise que ceux qui n'ont pas mis en place ces actions. Et on va tout simplement éteindre leur lumière lorsqu'on le peut. Et puis sensibiliser via de l'affichage lorsqu'on peut pas éteindre, lorsqu'on n'a pas accès à la lumière.
Donc, oui, tu le dis, c'est pas la première fois que vous organisez ce type d'action. Donc, est-ce que vous avez pu établir un profil type des magasins qui laissent leurs enseignes et vitrines allumées? Est-ce que c'est plutôt des magasins de mode, plutôt des boutiques de luxe, des agences, je sais pas, de banques, des agences immobilières? Quel profil type?
Ah, c'est une question un peu difficile, dans le sens où ce qu'on remarque, c'est qu'il y a tous les profils. Déjà parce qu'on ne s'attaque pas uniquement aux enseignes. On a tendance à penser à l'enseigne extérieure qui est allumée. Effectivement, ça peut être le cas. Mais parfois, on a aussi des lumières à l'intérieur du magasin qui ont été oubliées. On peut avoir des écrans aussi. C'est très à la mode chez notamment les agences immobilières, mais pas que. Donc non, il y a tous les profils, vraiment de la plus petite structure à la grosse structure aussi. Et c'est réparti un peu partout dans le centre-ville. Et on va jusqu'à Rosé, on s'étend aussi jusqu'à Route de Vannes, etc. Donc difficile de donner un profil géographique ou économique.
Et du coup, comment concrètement on peut éteindre un écran qui est à l'intérieur d'une boutique ou une lumière à l'intérieur d'une boutique?
Alors, à l'intérieur, malheureusement, on ne peut pas, on n'a pas accès. Et on ne va pas, évidemment, casser la vitrine pour avoir accès. L'idée, c'est vraiment, c'est vraiment la vision de XR, c'est la non-violence et le moins de dégradation possible. Donc, on a vraiment envie de les informer, de leur expliquer aussi pourquoi on veut éteindre les lumières, quel est l'intérêt. Et puis l'objectif aussi de renouveler les actions, c'est pour nous d'avoir un suivi au fur et à mesure de nos passages, de se rendre compte que certains commencent à se rendre compte de l'intérêt d'éteindre la lumière, d'autres pas, et donc on revient.
Donc vous leur laissez un message sur la vitrine, une feuille avec des chiffres peut-être,
récapitulatif
des enjeux.
Selon ce qui est affiché, enfin selon ce qui est allumé, on a un message effectivement qui peut être soit collé, soit glissé sous la vitrine, selon les situations.
Et donc les actions d'Extinction Rebellion, tu l'as dit, sont souvent considérées comme des actions de désobéissance civile, ou même à majorité, des actions de désobéissance civile, avec des risques juridiques encourus. Et donc pour une action d'extinction des lumières, est-ce qu'il y a un risque juridique possible?
Alors il y a un risque, il est relativement faible. Et donc aujourd'hui, on a eu par exemple beaucoup d'inscrits à l'action, on a plus de 80 inscrits. C'est plutôt un bon chiffre pour une action locale. Et en fait, les gens choisissent ce type d'action aussi parce que le risque, il est relativement faible. Et avant chaque départ d'action, peu importe l'action, il y a on se met d'accord sur les risques qui sont encourus. À tout moment, on peut sortir de l'action, mais on est assez franc sur quel est le risque. Donc là, typiquement, c'est un risque très faible de dégradation puisqu'on va mettre une affiche, mais c'est très limité.
D'accord, donc c'est pas tant sur le fait d'éteindre la lumière, mais plus de coller quelque chose sur la vitre.
Tout à fait.
Ok. Et outre les enseignes et vitrines de magasins, lorsqu'on parle d'économiser l'énergie, on peut aussi aborder la question de la publicité avec les panneaux lumineux qui restent aussi allumés toute la nuit. Et vous avez fait également des actions qui visait en particulier les panneaux, il me semble.
Oui, c'est fait assez régulièrement même chez XR. Il y a des groupes Stop Pub avec lesquels on travaille toujours avec Rap, dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, l'idée, c'est d'aller éteindre les panneaux lumineux qui sont une consommation énergétique inutile et en plus une pollution visuelle qui a un impact vraiment négatif sur la biodiversité.
Et donc, selon vous, il faudrait enlever totalement ces panneaux,
Oui,
c'est la revendication.
Effectivement. Pour nous, ça n'a pas d'intérêt de garder ces panneaux. La ville de Nantes, la métropole de Nantes, a choisi d'en supprimer une partie dernièrement.
Oui, c'était en janvier.
Tout à fait.
110, il me semble.
Ouais, une partie des panneaux, mais pour nous, c'est pas suffisant. Et ça reste une consommation énergétique aberrante quand on prend en compte la crise énergétique actuelle.
Et alors justement, est-ce qu'il y a eu des chiffres sur la consommation énergétique des vitrines, des enseignes, des panneaux lumineux? Est-ce qu'on a une idée, un ordre d'idée?
Alors moi, je ne les ai pas en tête, mais je sais que ça a été fait. Je ne les ai pas en tête.
Mais c'est quelque chose, en tout cas, vraiment énergivore par rapport à l'intérêt du...
C'est énergivore et puis, enfin, c'est même pas une question de chiffres, si vous voulez. Pour moi, c'est vraiment une question de bon sens. Je veux dire, vous quittez votre maison, évidemment, vous éteignez la lumière, vous n'allez pas la laisser allumer. C'est de la consommation inutile et en plus polluante. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt et c'est un geste simple. C'est pour ça qu'on essaie de faire cette action, parce que ça n'a pas d'intérêt de laisser une lumière allumée quand on quitte son bureau, sa maison ou son magasin.
Il y a aussi derrière l'idée un peu du consumérisme, des panneaux publicitaires qui poussent toujours à la consommation.
Oui, tout à fait. Et c'est le même principe pour les vitrines.
Eh bien, nous allons nous arrêter là pour la première partie de cette interview. Restez en direct, chères auditrices, auditeurs, pour la seconde partie, juste après la pause musicale.
Éteignons la lumière et allumons les étoiles. Telle est la devise brandie par Extinction Rébellion pour nous inviter aux gestes écologiques et pour le bien de toutes et tous. Auditeurs, auditrices, je vous laisse sur cette musique « On My Mind » de Max 1 Million. Auditeurs, auditrices, c'était la pause musicale. Nous retrouvons
Curiosité. Pensez le futur.
Et nous sommes de retour dans l'émission en direct pour la seconde partie de l'interview, donc avec Juliette, membre d'Extinction Rébellion Nantes, avec laquelle nous avons parlé dans la première partie de l'événement qui est organisé ce soir au centre de Nantes à 22h, qui s'appelle « Éteignons les lumières, rallumons les étoiles », donc pour éteindre les enseignes lumineuses pour lutter contre la pollution lumineuse et pour rentrer un peu dans les objectifs de sobriété énergétique. Dans cette seconde partie d'entretien, nous allons un peu sortir de notre sujet sur l'énergie pour aborder un peu plus les questions des autres actualités du mouvement de XR. Donc, notamment, il y a quelques jours, lundi 1er mai, vous avez constitué une équipe qui jusque-là n'existait pas au sein du mouvement. Cette équipe s'appelle les Salamandres et elle a un rôle bien particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Juliette, sur cette équipe ?
Oui, tout à fait. Donc, les Salamandres, c'est une équipe dite anti-lacrymo. Donc, c'est assez facile à comprendre. Le principe, il est simple. L'objectif, c'est de désamorcer les tirs de lacrymo de la police pendant les manifestations. Alors, on est en phase de test encore, donc on s'entraîne. Mais l'idée, c'est vraiment d'être là pour protéger les personnes qui vont manifester. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous emmèneriez votre grand-mère ou vos enfants en manifestation.
Soi-même.
Hein. Ouais, donc c'est vraiment dommage. Donc l'idée, c'est de protéger les manifestants et manifestantes face aux armes qui sont déployées par la police.
Donc c'est quelque chose qui vous est apparu comme essentiel à créer.
Oui, tout à fait.
Et donc concrètement, comment va agir cette équipe pour désamorcer les bombes hein,
avec Alors c'est un principe qui est assez simple, c'est que la lacrymo dans l'eau perd son activité, donc il faut récupérer la capsule de lacrymo et la mettre dans une boîte hermétique avec de l'eau. Alors, c'est vraiment tout simple, mais il faut réussir à attraper la capsule.
C'est ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup, pour la personne qui va tendre la main et attraper la bombe ?
Alors, je n'étais pas dans la cordeau, donc je ne sais pas forcément, mais j'imagine qu'ils ont des équipements de protection. En tout cas, le test a été assez concluant, suffisamment concluant pour qu'on relance, donc c'est que ça fonctionne. L'idée, c'est de ne pas se blesser, effectivement.
Mm. Et donc, est-ce que vous allez faire des formations pour former ? Parce que, vu le nombre de bombes lacrymo qui sont lancées par manifestation, on se doute qu'il va falloir beaucoup de membres dans l'équipe des Salamandres.
Ouais, je te rejoins. C'est qu'en fait, cette équipe, elle a très peu d'utilité si on est deux à attraper les lacrymo. Après, j'imagine qu'ils sont encore dans une phase de test. Vérifier que ça fonctionne bien et qu'on y arrive. Avant de pouvoir former d'autres personnes, il faut s'assurer qu'on est en sécurité et qu'on arrive à le faire de manière efficace. Mais l'idée, c'est de le déployer effectivement le plus possible.
Et donc, il n'y a aucun risque juridique de procéder à ce...
Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et dans l'actualité, autrement, vous organisez aussi un atelier sur la fresque du climat le dimanche 14 mai au Café du Chapeau Rouge. Donc, ce sera de 14h15 à 17h30. Est-ce que tu peux nous présenter, peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent potentiellement pas l'atelier sur la fresque du climat, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, la fresque du climat, c'est un jeu qui a été développé par l'association Fresque du Climat, donc, et qui a pour objectif de présenter les rapports du GIEC de manière ludique, sous la forme d'un jeu, en fait. Et ça permet de comprendre les mécanismes du réchauffement climatique et du déséquilibre climatique de manière plus simple que de lire les centaines de pages du rapport du GIEC qui ne sont pas tout à fait accessibles. Donc régulièrement, XR organise des ateliers, c'est gratuit et on peut s'inscrire via le site ou les réseaux sociaux.
Donc c'est accessible à tout le monde, les enfants, parents ?
Alors les enfants, il y a une version enfant, fresque du climat, mais là c'est pas la version enfant qui est proposée. Mm-hmm. Par contre, à partir de 14-15 ans et jusqu'à vos grands-parents, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières au départ, au contraire, c'est assez simple, c'est vraiment accessible à n'importe qui.
Et c'est effectivement, c'est un atelier assez à la mode, qui a lieu un peu partout en France. Mais est-ce que vous avez réellement observé une efficacité de cet atelier, peut-être dans la prise de conscience? Est-ce que les gens ressortent en se disant faut agir, je vais faire ça, je vais...
Alors c'est difficile parce qu'après on n'est pas dans les maisons des gens, donc
oui, bien sûr,
du mal à avoir un retour sur le long terme. Par contre, alors dans la fresque du climat, il y a effectivement toute une partie de compréhension des enjeux, mais la fresque du climat, elle se termine toujours par qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions. Et dans les solutions qui sont proposées, il y a toujours des choses assez surprenante. On se rend compte que quand les gens, on leur présente les enjeux et les conséquences du dérèglement climatique, en fait, ils sont prêts à agir et on est même surpris par l'importance des actions qu'ils sont prêts à mener, quoi.
Donc c'est plutôt c'est le temps de débriefing après l'atelier qui est vraiment important.
Mais après, sur le long terme, c'est difficile de savoir s'ils mettent en place l'engagement qu'ils ont choisi pendant cet atelier. Quoi.
Oui, après, ma question, c'était plus dans le sens, est-ce qu'à la fin de l'atelier, on voit vraiment des gens qui se disent « Waouh !» Enfin, je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là ou...
Après, il faut avoir en tête que les fresques du climat, alors c'est vrai qu'elles sont à la mode, donc on a quand même une population qui est assez large, mais ça reste des gens qui sont souvent sensibilisés ou intéressés par le sujet et qui donc connaissent quand même 2-3 choses et sont en tout cas sensibilisés sur le sujet. En même temps, aujourd'hui, il faudrait vraiment vivre dans une grotte pour ne pas être au courant du sujet. Mais voilà, on a un public qui est quand même un peu averti, donc c'est peut-être pas très représentatif de la population française.
Après, on peut être au courant et dans le déni aussi, nier totalement les faits. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que Extinction Rébellion, peut-être dans ses politiques d'action ou de communication, comment on peut aller chercher ces gens-là qui... aller chercher les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés de base à ces questions-là pour balayer le plus de monde possible.
Alors, c'est pas tout à fait l'objectif premier d'Extinction Rébellion. On parle de la partie sensibilisation chez Extinction Rébellion, mais c'est pas le centre de notre sujet. Et on va vraiment chercher à alerter aussi les autorités. Finalement, on peut tous mettre en place des petits gestes. Si derrière, il n'y a pas une vraie prise de conscience politique et économique, en fait, ça reste assez inaccessible. Mais on organise une deuxième action de sensibilisation qui parfois parle plus aux gens. Parce que la fresque, c'est vraiment pour comprendre le mécanisme du dérèglement climatique. On a aussi des présentations du GIEC Pays de la Loire. Donc c'est la déclinaison Pays de la Loire du GIEC. On a beaucoup de monde à ces présentations, donc il devrait y en avoir dans les prochains mois. Parce que finalement, ça intéresse les gens de se rendre compte de quel va être l'impact finalement de ces enjeux, mais vraiment, en fait, pour moi, dans ma vie de tous les jours, autour de moi, au niveau local. Et donc, parfois, les gens, ils n'ont pas forcément toujours besoin de comprendre tous les mécanismes généraux, mais ils ont besoin de savoir quel va être l'impact dans ma région. Parfois, ça leur parle plus. Donc, il y a cette option-là aussi.
Oui, parce que pour l'instant, le dérèglement climatique est très inégal à l'échelle de la planète. Donc, il y a des régions qui sont déjà beaucoup plus touchées que d'autres. Donc, c'est vrai que quand on est loin, qu'on voit des choses qui se passent en Asie, en Amérique, on se dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour tout de suite. Et puis, de ma petite place d'individu, je ne peux pas faire grand-chose contre quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres. Mais effectivement, le GIEC des Pays de la Loire présente les enjeux et la région de Nantes va être particulièrement touchée par, en tout cas, la question de la montée du niveau de la mer, la montée des eaux.
Oui, tout à fait. Je ne peux pas dire mieux, c'est exactement ça.
Ouais. Est-ce que dans le viseur, il y a d'autres actions qu'organiserait Extinction Rébellion dans les prochains...
Alors, je ne les ai pas tout en tête, comme je le disais, et cette notion d'horizontalité de l'organisation de XR, c'est vraiment très important. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association, on est vraiment un mouvement. Donc, chacun s'implique sur les actions qu'il a choisies, plus ou moins d'ailleurs, et vraiment à son niveau et à sa manière. Donc, moi, je connais qu'une partie des actions. Par contre, les actions, elles sont toujours publiées sur nos réseaux sociaux et on a aussi un agenda sur le site XR, donc il ne faut pas hésiter à aller s'informer. Et on a des réunions d'accueil qui sont très bien faites, qui vraiment permettent de comprendre comment on fonctionne, quelles sont les actions qui sont à venir, qu'on ne partage pas toujours publiquement.
Et alors, pour l'événement de ce soir, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'étaient pas au courant, qui veulent participer, est-ce qu'ils peuvent encore s'inscrire ?
Alors, non, en plus, c'est moi qui gère les inscriptions et elles sont malheureusement closes. On a eu beaucoup de monde et on a, entre guillemets, que 300 enseignes à aller voir. Donc, pour ce soir, on n'a pas besoin. Par contre, c'est sûr qu'on va reproduire. Donc, il faut se tenir au courant et s'inscrire. Oui.
Donc l'événement, je rappelle quand même, ce sera ce soir de 22h à 23h30, donc à Nantes.
Mais les gens peuvent venir nous faire un petit coucou et nous dire bravo s'ils nous croisent dans le centre de Nantes.
Ça fait toujours plaisir.
Exactement.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup Juliette d'être venue à Prune ce soir.
Merci à vous de m'avoir laissé l'occasion de présenter l'événement.
Auditeurs, auditrices, quelle est la solution pour économiser l'énergie ? Extinction, rébellion par la voix de Juliette nous invite ce soir à éteindre tout simplement nos lumières et à allumer nos étoiles. Merci à toi Juliette pour, et à toi aussi Loïva pour cet entretien. Auditeurs, auditrices, à présent partons à la découverte de la chronique d'Emmanuel. Elle nous parle d'un dérivé du cannabis, un sujet qui fait couler beaucoup de salive en ce moment.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Depuis plus d'un an, on trouve un dérivé du cannabis produit artificiellement en vente libre sur le marché du CBD, dans les boutiques spécialisées ou sur Internet. Ce soir, je vais parler de l'hexadrocannabinol, ou plus simplement HHC. Ce produit n'est pas une innovation, cette dernière synthèse remonte jusqu'à plus de 80 ans. Il a été découvert en 1940 par le chimiste américain Roger Adams. Mais alors pourquoi on y porte attention ces derniers temps ? Parce que ce produit est vu comme une alternative légale au THC, qui est la principale substance active du cannabis, dont la consommation est illégale en France. La structure moléculaire du HHC est proche du THC, et les effets suite à sa consommation seraient similaires. On décrit les mêmes effets thérapeutiques et psychotropes, comme la sensation de planer, de bien-être ou d'euphorie, mais aussi de bad trip, comme des crises d'angoisse par exemple. Mais alors, comment cela se fait-il qu'une substance quasiment identique au THC soit autorisée dans le commerce français ? En fait, il est autorisé sans l'être réellement. À vrai dire, il profite d'une zone grise. Il n'y a pas encore d'études scientifiques sur ce cannabinoïde. Il est tellement nouveau sur le marché qu'il n'y a pas encore d'informations concrètes sur ses effets et ses risques. On se base seulement sur des expériences de consommateurs-consommatrices et des suppositions. Sans étude poussée, le cadre juridique autour de sa commercialisation n'a pas encore été posé. C'est pour cette raison qu'il est possible de s'en procurer en magasin pour l'instant. Pour l'instant, car le marché ne devrait pas tarder à être dompté. Le HHC fait de plus en plus parler et plusieurs personnes demandent aux autorités sanitaires d'arbitrer, comme ça a été fait pour le CBD. C'est le cas de Mathieu Bensa, le cofondateur de la marque Le Chanvrier Français. Il a expliqué son refus de vendre du HHC dans ses boutiques auprès de France Info. Il a dit, je cite, « Il n'y a aucun problème si on nous démontre les bienfaits du HHC et qu'on s'assure que cela n'est pas nocif ou addictif ou psychotrope. Pour l'instant, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, c'est principe de précaution. » L'Union des professionnels du CBD est d'accord sur ce point. Le 25 juillet 2022, elle met en garde ses adhérents et adhérentes et consommateurs-consommatrices et leur demande de ne pas acheter, ni vendre, ni consommer des produits à base de HHC. Mais malgré ces incertitudes, on en trouve quand même. Toujours chez France Info, un autre vendeur de CBD explique que le HHC représente la moitié de ses ventes. il ne sait pas dans quel laboratoire le produit est synthétisé et il suppose qu'il vient de République tchèque. Mais il continue d'en vendre car il sait que s'il ne le fait pas, ce sera ses concurrents qui en vendront. Avant de continuer, un petit point explicatif sur sa fabrication. Le HHC se fabrique en laboratoire avec le processus d'hydrogénation. C'est-à-dire qu'on parle de la molécule naturelle de ces cannabinoïdes et on y provoque des réactions chimiques en ajoutant de l'hydrogène ou en le chauffant. La molécule de HHC est peu présente dans la plante, donc on la tire d'extraits de CBD ou de THC. Ensuite, on obtient une poudre qu'on met dans une solution aqueuse ou de l'huile, qu'on pulvérise sur les fleurs de CBD ou on trempe ces fleurs dans un bain de CBD. Les autorités sanitaires et interministérielles de lutte contre les drogues travaillent depuis plusieurs semaines pour examiner les risques de son usage et ensuite le classer ou non sur la liste des stupéfiants. La Direction générale de la Santé appelle à la vigilance au vu du manque d'informations sur ce produit. Je finis là-dessus. Mes sources sont France Info, Libération et l'interview du pharmacien Mathias Schogel sur le site internet CBD Vital.
Merci à toi, Emmanuel. Auditeurs, auditrices, partons en pause cadeau avec Lola. La pause cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour les 25 ans du TNT. Ce sera leurs 25 ans de théâtre, de musique, d'impro, de concert et de rire. Deux journées festives pour se retrouver et célébrer les artistes et compagnies qui ont joué au TNT ces 25 dernières années. Alors, tente de gagner l'une des places offertes en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et on retourne doucement avec la suite de l'émission et le morceau In Love de Paul Monde, c'est tout de suite sur Prune.
I can never stop loving you.
auditeurs, auditrices, à présent, revenons sur les tenues qui ont marqué le Met Gala 2023 qui s'est tenu le 1er mai dernier à New York avec le micro de Clémence. Écoutons.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Chères auditrices, chers auditeurs, comme chaque année depuis 1948, le traditionnel rendez-vous du Met Gala s'est tenu dans la nuit du 1er mai à New York. Créé dans les années 50 par Eleanor Lambert, une journaliste de mode renommée, le Met Gala permet de collecter des fonds annuels pour l'Institut du Costume. À ses origines, le premier gala était un dîner de minuit et les tickets d'entrée coûtaient seulement 50 dollars. Aujourd'hui, le Met Gala est certainement l'événement fashion qui fascine outre-Atlantique. Plus que les personnalités présentes, ce sont leurs tenues, et oui, qui sont les plus attendues. Alors, quel était le thème de cette année ? Le traditionnel show s'est donc tenu au début du mois au Met. Donc, si vous ne vous rappelez pas, le Met, c'est le fameux musée d'art métropolitain de renom de New York. Vous savez, les marches de Gossip Girl pour les plus invétérés d'entre vous. Et, rivalisant d'audace et de créativité, les personnalités et les créateurs ont rendu hommage cette année au génie de Karl Lagerfeld, qui était donc le thème de cette soirée. Chaque année, donc, comme je vous le disais, un nouveau thème est dévoilé. Ah oui, c'est ça, le nouveau thème, c'est en l'honneur de Karl Lagerfeld. Alors, comment définir Karl Lagerfeld par le choix d'un costume ? Tout d'abord, Karl Lagerfeld, c'était avant tout une maison, la maison Chanel. En effet, le créateur fut directeur artistique pour la maison dans les années 80. Conséquence donc, peu surprenante, vous me le direz, nos célébrités ont défilé sur le tapis rouge avec des créations vintage de la maison Chanel. À l'image de Dua Lipa, qui a opté pour une robe Chanel vintage crème, corsetée, de la collection de 92, mais également la chanteuse Angèle, qui quant à elle a opté pour un ensemble en tweed noir des années 90 également. Les iconiques de Chanel ont donc été largement revisitées à cette soirée. On a pu voir des perles à foison, du tweed, des ensembles, du noir, du blanc, bref, du distingué, du Chanel. Ce qui est, je trouve, assez dommage, c'est que cette saison édition 2023 du Met Gala, bien que sublime, a été en réalité davantage une éloge de la maison Chanel plus que le reflet de la personnalité de Karl Lagerfeld. Or, n'oublions pas que l'homme qu'il était a également été directeur artistique des maisons Fendi, Balmain ou encore Chloé. Cependant, et chose assez surprenante, certaines personnalités invitées ce soir-là sont allées chercher les références à leurs costumes dans l'intimité de Karl Lagerfeld plus que dans ses créations. À l'image d'un costume que je trouve assez formidable pour le coup, celui de Jared Leto, qui s'est déguisé en choupette. Eh oui, choupette, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la fameuse petite chatte de Karl Lagerfeld à qui le créateur vouait toute son affection. Jared Leto a donc osé. Et comme, mais c'est comme chaque année, j'ai envie de vous dire, c'est sa personnalité. On attend toujours ses costumes avec la plus grande impatience. À cette soirée-là, il arborait donc une tenue complète, toute poilue, avec une tête de chat. Les détails sont assez surprenants, tout y est, de la queue au coussinet, du pelage soyeux aux petites griffes, en passant par les moustaches et les yeux bleus de choupette. Je dois avouer d'ailleurs que c'était assez bluffant. Certaines personnalités ont été un peu plus discrètes et ont opté pour des créations clin d'œil, afin de rendre hommage à leur grand ami disparu. Ainsi, Nicole Kidman portait une robe en mousseline rose que lui avait dessinée Karl Lagerfeld pour une publicité Chanel d'il y a plusieurs années. Cette création, connue du monde entier, avait d'ailleurs grandement participé à la notoriété de l'actrice. Carla Bruni, quant à elle, portait une robe longue noire et blanche, tout en subtilité, pour rendre hommage à son grand ami. À la fois simple et efficace. Cette soirée en hommage au grand créateur nous en aura donc encore mis plein les yeux. Certaines personnalités y sont allées très fort. Mais que nous réserve donc l'année prochaine à faire à suivre, puisque le thème n'a pas encore été dévoilé. Dans tous les cas, donc, à vos pronostics.
Merci à toi Clémence de nous en avoir mis plein les yeux ce soir. À présent, c'est l'heure de notre reportage du jour. Ce dimanche 30 avril, les écolonautes sont allés à la rencontre de Mona Prudhomme, coordonnatrice de l'association Nantes Ville Comestible, à l'occasion de la 7e édition nantaise des 48 heures de l'agriculture urbaine. Ils ont pu échanger sur l'événement, les activités de l'association et bien sûr sur les enjeux de l'agriculture de notre métropole nantaise.
Curiosité reportage.
Là, on déambule dans le jardin pédagogique à la Grenotte. On est arrivé pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. Il y a plein d'exposants. Ça donne vraiment envie d'aller voir un peu partout. Bonjour Mona.
Bonjour.
Merci de nous recevoir pour cette interview sur la 7e édition nantaise des 48 heures de l'agriculture urbaine, donc propulsée par la SAUGE et Nantesville Comestibles. La programmation est riche, 80 événements annoncés, des ateliers pratiques, ça va du jardinage à la cuisine, des balades, des concerts, des conférences, un marché de villages et de producteurs, des projections, des visites. Bref, qu'est-ce qu'il y a de neuf pour cette nouvelle édition ?
Eh bien, déjà, la nouveauté pour cette 7e édition, c'est que 80 événements, c'était le chiffre de l'année dernière. Et là, en fait, on est à 140 pour ce week-end. À savoir que, parce que c'est pas tant la quantité qui compte, mais aussi la typologie d'événements, le fait qu'il y a vraiment de plus en plus de fermes en périphérie de Nantes qui proposent des portes ouvertes. Beaucoup plus le sujet de l'alimentation aussi durable qui est proposé par des ateliers, des dégustations. Et aussi que cette année, on essaime le festival sur 12 communes de la métropole. Donc il y a aussi ça, l'enjeu pour nous, c'est vraiment que ça se décentralise un peu de Nantes pour que tous les habitants vivant dans d'autres quartiers ou communes, au pied de chez eux, puissent aller rencontrer leurs producteurs et les acteurs de cette transition sociétale.
Nantesville Comestibles affiche l'ambition de fédérer les acteurs locaux et affiche également le fait d'œuvrer pour la reconnexion des habitants de Nantes Métropole avec leur territoire. Quelles sont les principales actions que vous mettez en place en ce sens, en dehors de l'organisation des 48 heures de l'agriculture urbaine qui sont déjà un énorme truc ?
Oui, en effet, un énorme truc, puisque ça nous occupe bien 6 mois dans l'année de coordonner ce petit festival avec nos acolytes de la SAUGE. Il y a plusieurs volets d'action qu'on a en plus du festival. Mais celui qui va concerner les habitants, c'est vraiment des potagers en fait, participatifs, comme le font beaucoup d'associations dites d'agriculture urbaine. Donc nous, on cultive et on anime toutes les semaines donc 2 potagers maintenant. On en avait un troisième l'année dernière, mais qui est devenu un jardin partagé, autogéré par des habitants. Et du coup, nous, ces potagers, on les considère vraiment comme des lieux de vie, de rencontres, d'expérimentation. Et l'objectif premier, presque avant la question nourricière, même si elle est quand même là, puisque toutes nos récoltes sont à destination des personnes en précarité, donc on a des partenariats sociaux pour les distributions. Mais c'est avant tout de dire, bah voilà, c'est ouvert, tout le monde peut venir et rencontrer ses voisins, voilà, s'expérimenter, mettre les mains à la terre, échanger des idées de recettes. Le potager en ville est vraiment une super porte d'entrée pour après pouvoir approfondir de plein d'autres façons ces questions-là.
Comment la notion de ville comestible ou de jardin partagé s'inscrit dans ce grand écosystème de l'agriculture urbaine ?
Déjà, officiellement, il n'y a pas de définition en soi de l'agriculture urbaine aujourd'hui. Il y en a plein. C'est des productions de plusieurs typologies, ou au sein de la ville ou dans sa périphérie. Mais moi, j'insiste toujours en disant que c'est des productions, pas que au sens production nourricière, aussi de services pédagogiques, sociaux, de biodiversité, paysagers, de lutter contre les îlots de chaleur. Il y a vraiment plein de choses pour moi, de mini-enjeux auxquels les différentes formes d'agriculture urbaine peuvent répondre. Moi, ce que j'aime bien aussi dire, j'étais en Île-de-France il y a quelques années, et les fermes qui se revendiquaient micro-fermes urbaines là-bas, c'était pas du tout la même typologie, c'est pas le même terroir qu'on a ici à Nantes. Et donc, je pense que c'est important aussi de s'approprier un peu la définition en fonction de son territoire et de sa réalité. Et en fait, nous, à Nantes, en tout cas, la beauté, je trouve, la chance qu'on a, c'est qu'on a encore beaucoup de terres fertiles et qu'on a un enjeu aussi de préserver ces terres-là, ce qui fait que notre agriculture urbaine, périurbaine en région nantaise, elle est en pleine terre, majoritairement. On n'a pas beaucoup de toits, de potagers sur les toits, du hors-sol, des choses un peu high-tech. Ce n'est pas vraiment ça, nous, ici, qui nous concerne.
On n'est pas à Shanghai.
Non, c'est ça. Ou ni, même sans aller jusqu'à des grosses villes comme ça. Mais voilà, il y a moins, je trouve, ce côté entrepreneuriat, high-tech hors sol, voilà, qu'on peut retrouver dans d'autres villes, qui est aussi passionnant, hein, mais c'est d'autres modèles. Et c'est vrai qu'ici, c'est pas majoritairement ça qui va définir.
Alors une question qui est un peu tarte à la crème, mais qu'on a quand même envie de vous poser. Quelle est la place que l'agriculture urbaine peut jouer dans la part de l'approvisionnement d'une ville comme Nantes ? Est-ce que l'autosuffisance alimentaire est un objectif réaliste ou est-ce que c'est une utopie ?
Non, alors c'est complètement une utopie que moi je considère même comme étant un peu dangereuse. La vigilance, en fait, c'est de ne pas faire de scission ville-campagne. Et quand on dit ça, quand on fait un peu rêver l'Istada en disant voilà, venez jardiner, on va récupérer de l'autonomie alimentaire, on oublie la campagne. C'est les zones rurales qui nous nourrissent aujourd'hui. C'est pas des potagers qui au final ne produisent que des légumes, on peut pas se nourrir que de légumes. Donc pour donner quand même le chiffre, à l'échelle de Nantes Métropole, on n'est qu'à 2,8% d'autonomie alimentaire aujourd'hui. Bon, on n'arrivera jamais, enfin, si déjà un jour on a 10%, c'est super, c'est souhaitable, hein, clairement, mais nous, tous nos projets, ils ont aussi à cœur d'inclure, de faire beaucoup plus de passerelles, vraiment avec les agriculteurs, les agricultrices, qui eux sont dans des zones plutôt rurales et vraiment nourrissent les populations.
J'ai vu un chiffre clé, je me permets de vous demander si vous trouvez ça réaliste. J'ai lu qu'un mètre carré de jardin peut fournir 20 kilos de nourriture par an. Est-ce que ça, c'est un chiffre que vous pensez réaliste ?
Du coup, à l'échelle d'un mètre carré, j'ai un peu de mal à me rendre compte, mais ça me semble pas forcément délirant. Tout dépend de la qualité de son sol. On part pas tous égaux là-dessus. Et aussi des méthodes de culture qu'on emploie. Et donc, en effet, si vous plantez vos rangs plus serrés, si vous faites des associations de culture, vous pouvez, à l'échelle d'une petite planche de culture, en avoir peut-être 4 en même temps et après faire un système de rotation. Et donc, je vais pas rentrer dans la technique, mais en soi, certainement.
Comment on peut tendre vers plus d'autosuffisance alimentaire à l'échelle de Nantes Métropole ? Quels sont les principaux obstacles à lever selon vous et au regard de quels enjeux ?
Déjà, je pense qu'il y a un vrai sujet, et ça qui est un peu vrai partout, c'est que je pense que là, aujourd'hui, nos agriculteurs, nos paysans, paysannes, il y a un véritable enjeu à mieux les accompagner, à comprendre aussi leurs besoins, les crises qu'ils traversent. Là, on a des énormes problèmes, évidemment, de sécheresse, mais pas que, de problèmes de pollution des sols. En fait, il y a un moment, c'est trop facile de les pointer du doigt et de dire... Faites un peu mieux les choses, c'est un métier qui est déjà très dur, dont on vit encore mal aujourd'hui en 2023, et ça c'est pas normal. et du coup je pense que ces questions, plutôt que de parler d'autonomie alimentaire, mais en tout cas d'avoir un circuit court un peu plus local sur l'approvisionnement aussi de nos productions à l'échelle de la métropole, ça demande du temps. C'est pas une transition qu'on peut faire comme ça d'un claquement de doigts. Ça demande de revoir tout un système en profondeur. Donc je pense que ça, déjà, il y a vraiment une responsabilité de la part des pouvoirs publics là-dessus, qu'il faut que les mangeurs, mangeuses comprennent aussi ça, acceptent aussi la réalité du monde agricole qui est pas facile. Et puis, quand même, le gros enjeu derrière ces questions de relocaliser un peu notre alimentation, c'est la préservation des terres. Et aujourd'hui, on a quand même encore trop de projets d'urbanisation sur des terres fertiles. Et ça, c'est vraiment déplorable parce qu'on ne les récupérera jamais.
Si on ramène cette question à titre individuel, comment on peut contribuer à rendre la ville comestible ? Par où on peut commencer ?
Un peu comme je le disais, de façon très simple, tous les quartiers n'ont pas suffisamment de jardins partagés pour accueillir tous les citoyens, citoyennes qui auraient envie de s'y mettre. Mais en tout cas, je pense que c'est une super porte d'entrée pour aussi se décomplexer un peu du truc. Mais moi, j'ai pas la main verte, je sais pas faire. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire à son échelle. Déjà, aller rencontrer les producteurs, ça c'est pareil. Moi, je le dis beaucoup, mais voilà, sur les marchés, vous inscrire auprès d'une AMAP, toute la question aussi de bien composter ses biodéchets. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Participer à des événements comme les 48 heures, et il y en a plein d'autres sur Nantes Métropole, pour vraiment se rendre compte de tous les enjeux que collectivement on a en fait face à l'urgence aussi écologique dans laquelle on est.
Une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nantes Ville Comestible pour l'avenir ?
Plein de choses, plein de bons légumes. Clairement, je pense que nous, ce nouveau tournant un peu de l'association, donc en plus du festival, de un peu faire réseau et à notre humble niveau, accompagner, aider au mieux les structures existantes, et d'ailleurs qu'elles soient professionnelles ou encore à un stade amateur porteur de projet. Ça, c'est vraiment un de nos nouveaux objectifs là depuis un an. Et du coup, je pense que ce qu'on peut souhaiter à la structure, c'est que ce volet-là continue, parce que je crois que c'est essentiel. voilà, y a aussi des vraies crises que travaillent les différents professionnels de l'agriculture et de l'alimentation durable et qui méritent qu'on les écoute un peu plus et que collectivement on soit un peu plus fort.
Merci beaucoup.
Merci.
On remercie encore Mona Prudhomme, coordinatrice de l'association Nantes-Ville Comestible, pour cette interview. C'est la fin des Écolonautes pour aujourd'hui. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur le site www.prune.net.
Je m'excuse.
Rubrique oui. Les Écolonautes.
Auditeurs, auditrices, toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Pour terminer l'émission, place à la rubrique littéraire. Alexis nous parle de deux livres dont Âge tendre, un roman de Clémentine Beauvais édité en poche par J'ai lu, et l'œuvre intitulée Dessinée de Petit Mickey, une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique entre 1945 et 1968 de Jessica Cohn, édité par les éditions de la Sorbonne.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Et oui, bonjour, bonsoir. Alors c'est dommage, d'habitude je parle assez souvent de science-fiction et ça aurait été bien en thème, dans le thème avec le problème de son qu'on a qui déforme les voix, qui est totalement indépendant de notre volonté, même si c'est un peu rigolo. Donc je vais vous parler en direct et sans modification de deux livres ce soir. Et oui, puisque c'est bientôt les vacances, donc il faut que je parle de tous les livres que j'ai lus. Et le premier s'appelle donc « Dessiner des petits Mickey », sous-titré « Une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique de 1945 ». À 1968, donc pendant en gros les 30 Glorieuses. Et c'est un livre qui est en fait une étude sociologique sur le métier de dessinateur ou dessinatrice de bande dessinée à cette époque-là, à cet endroit-là. Et c'est écrit par Jessica Cohn, donc qui est chercheuse et puis docteur en sociologie, et c'est édité aux éditions de la Sorbonne dans la catégorie histoire contemporaine. Alors, c'est absolument passionnant. Alors, en plus d'avoir un super titre, je dois bien avouer que ça a un peu accroché mon regard, dessiner des petits Mickey, c'est une expression qu'on retrouve régulièrement depuis justement les années 50 et encore aujourd'hui. Je sais pas si vous lisez genre Fluide glacial, il est souvent question comme ça de se dessiner des petits Mickey, qui est en fait une manière de un peu déprécier, de se moquer gentiment du métier de dessinateurs. Souvent, c'est ce dont ils font part lorsque, par exemple, leur famille leur demande « Ah oui, c'est vrai, tu dessines des petits Mickey, c'est ça ton boulot ». Donc, en gros, c'est pas vu comme quelque chose de très sérieux, et ça ne l'a jamais vraiment été. Alors, peut-être que ça commence à changer depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années, là, depuis qu'on introduit en France le terme roman graphique, mais qui veut simplement essayer de distinguer la bande dessinée qui serait donc bas de plafond avec une bande dessinée plus artistique, etc. Mais en fait, peut-être que juste la bande dessinée, c'est un art en soi, et que c'est très bien de le considérer, et ce, depuis le début. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une étude sociologique. Donc, on se rend compte à quel point ça a été un métier précaire pendant très longtemps, et d'ailleurs je pense pas qu'aujourd'hui, à part quelques rares exceptions, ce soit autre chose que précaire. Même chose hein, d'ailleurs pour les scénaristes, mais là on parle bien des dessinateurs et des dessinatrices. Ça, en fait, c'est vraiment une étude historique et sociologique, donc historique avant tout, sur ce métier avec un aspect social, c'est-à-dire combien sont payés ces gens-là, d'où ils viennent, de quel milieu. C'est vraiment une étude, mais c'est passionnant à lire. Il y a des études universitaires qui sont plus agréables à lire, plus divertissantes que d'autres, en plus d'être forcément en soi passionnant, puisqu'on apprend plein de choses. En plus, une part belle est faite aux dessinatrices qui, pendant très longtemps, ont été mises quand même pas mal de côté dans l'histoire de la bande dessinée en France et en Belgique et ailleurs. Et pourtant, elles étaient présentes. Alors, il y a beaucoup de dessinateurs en soi et de dessinatrices aussi qui ont été invisibilisés parce qu'ils n'ont pas eu énormément de succès, parce qu'ils ne sont pas rentrés en fait dans les grandes histoires de la BD. Après tout, on retient seulement quelques rares élus pour X raisons, souvent le talent, mais hélas pas que. Parmi ceux qui sont oubliés, on a quand même beaucoup de femmes. Et ça vaut le coup justement de rappeler de ça, puisque en fait, cette... le fait que ces femmes ont été invisibilisées se répercute dans le milieu social d'où elles proviennent, mais également dans les études qui étudient ces milieux sociaux. Donc c'est quand même un cercle vicieux. Donc heureusement, tout ça est en train un petit peu de changer. Donc cette étude dessinée des petits Mickey, une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique de 1945 à 1968, donc tout est dit dans le titre, écrit à partir de ses recherches donc, par Jessica Cohn, est disponible aux éditions de la Sorbonne. Je vous le conseille fortement si vous intéressez à la bande dessinée et à son histoire, et notamment la partie franco-belge. Et je vais vous parler d'un deuxième livre, parce que j'adore parler de livres. Voilà. Et ce livre s'appelle « Âge tendre » et il a été édité aux éditions Sarbacane. Et c'est un roman écrit par Clémentine Beauvais, qui depuis a été édité en format poche dans les éditions J'ai lu. Et c'est l'édition que j'ai lue et également découverte. Alors, je ne connaissais pas du tout et je dois bien avouer que... Alors, pareil, hein, y a plein d'aspects qui vous attirent vers un livre. Ça peut être la couverture, qui est plutôt sympathique, voilà, avec des belles fleurs des années 60. Une guitare en plein milieu. Le titre, Âge tendre, qui fait référence, bien entendu, à Âge tendre et tête de bois, qui est donc une expression qui date de ces années-là, de ces années 60, et qui était celle d'un magazine. Si je ne dis pas de bêtises, je ne m'en rappelle plus, j'étais pas né, que je vous rassure. Et puis, le synopsis. C'est l'histoire d'un adolescent, je crois qu'il est en troisième ou en seconde. On est dans le futur, en fait, un futur proche et très proche de nous, en France. Et cet adolescent a un service civique obligatoire qui doit être fait dans le cadre du collège ou du lycée. Ça n'existe pas encore, hein, rassurez-moi, enfin, je crois. Hein.
Non, pas encore.
Oui, oui. Et dans un service civique qui doit être fait dans des associations ou en tout cas des institutions sociales ou qui sont dans le soin. Donc lui, il va faire ça dans une maison de retraite. Une maison de retraite un peu particulière. On est aussi dans le futur, hein, avec des gros moyens et une maison, qui est gérée par l'État. Gérée par l'État, dont les fonds viennent de l'État. Et mais un peu spécial, c'est-à-dire, c'est l'unité mnémosyne, donc de la mémoire. C'est-à-dire, les gens qui sont un peu en train de perdre la tête, les personnes âgées, on les place dans un contexte qui est celui de leurs 20 ans. Donc là, c'est les années 60. Donc tout est justement avec les fleurs... Les habits, avec la musique, tout doit ressembler justement à ça, même si c'est un peu faux, même si les gens y croient pas vraiment, mais ça les met dans un cadre agréable. Et c'est une tentative, justement, dans ce livre, on explique que c'est une tentative pour essayer de les faire se sentir mieux. Et ce jeune garçon, au contact des personnes âgées, au contact du travail, au contact de ses collègues, mais aussi, surtout, au contact des années 60 et de sa découverte de Françoise Hardy, va complètement alors, s'épanouir, grandir d'un coup et adorer ça. Je dois bien avouer alors, qu'il peut y avoir un aspect comme ça, livre assez facile à lire, livre de vacances. Non, j'ai trouvé ça quand même bien plus surprenant. Et puis, j'ai beaucoup aimé justement certains aspects assez littéraires qui sont, par exemple, de placer le livre dans le futur avec des petites touches comme ça. Par exemple, suite au Brexit, maintenant, le Royaume-Uni, c'est juste l'Angleterre parce que les autres ont fait sécession. Il y a des petites touches qui sont aussi des discours sociopolitiques justement sur notre époque et qui sont assez intéressants. Et là aussi, il y a un petit côté utopique, mine de rien. Et donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce livre, donc écrit par Clémentine Beauvais, qui s'appelle « Âge tendre », qui est édité par les éditions Sarbacane, puis en format poche aux éditions J'ai lu.
Merci à toi, Alexis, de nous présenter ces deux livres. Auditeurs, auditrices, ainsi se termine notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sous prune. Curiosité, ça recommence dès lundi, puisque lundi... Non,
dès mardi,
puisque lundi, c'est encore férié. Je suis déjà en vacances, moi. En attendant, vous souhaite un très bon long week-end.